Bien voilà mes amis, on entame donc une nouvelle péricope qui théoriquement commence au verset 26 et se termine au verset 40, mais dans ma grande bonté, j'ai décidé qu'on ne ferait pas plus que le 31 aujourd'hui, si on y parvient, ce serait déjà bien, tant il y a à dire sur cette partie-là déjà. C'est-à-dire celle qui précède l'enseignement, entre guillemets, de Philippe à l'eunuque éthiopien. Donc, on va peut-être se contenter de lire juste cette section, jusqu'au verset 30, exactement. Voilà. Donc, si quelqu'un veut le faire, on n'est pas obligé que ce soit Brigitte à chaque fois. Donc,
si quelqu'un... D'ailleurs, c'était moi, hein, donc on joue.
Ouais, voilà, Brigitte. C'est bien.
Brigitte, c'est toi.
Personne d'autre.
L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Tu vas te rendre vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe partit aussitôt. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui, assis dans son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ?» La question nous est posée aussi.
Oui.
Est-ce que nous comprenons vraiment ce que tu viens de dire?
Oui, quand on lit l'Écriture, est-ce qu'on comprend à chaque fois? Est-ce qu'on comprend tout? Voilà. Excellente question. Hein. Très bien. Donc juste pour situer un petit peu la péricope, on se souvient que la fois d'avant, on avait eu affaire à l'enseignement de Philippe en Samarie, aux conversions multiples et à quelques parenthèses avec Simon le magicien, sur lequel on a pu tirer quelques conclusions d'ailleurs. Et finalement, cette péricope-ci est un peu à l'image de la précédente, c'est-à-dire qu'elle continue d'introduire, elle sert de prélude à l'évangélisation du monde païen. Mais cette fois-ci, avec un accent plus païen encore que celui de la péricope précédente. Et on va donc découvrir dans cette péricope assez longue, au travers des deux rencontres que nous aurons, la conversion, si on peut dire, hein, parce qu'il est déjà converti au judaïsme, la conversion et le baptême du premier Africain. Ça, c'est quand même intéressant de le souligner. Donc, et du coup, ce n'est pas une mission, hein, au sens missionnaire du terme, mais il se convertit sur la terre encore d'Israël. Et on verra d'ailleurs pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc on va commencer tout doucement avec la question que je vous avais posée, la première, qui était sur l'expression « l'ange du Seigneur ». Qu'avez-vous tiré comme conclusion ?
On en avait déjà parlé une fois. Hein. Moi, j'avais toujours pensé, mais apparemment, je serais dans l'erreur, mais quand on parle de l'ange du Seigneur, que c'était Jésus, mais tu m'as dit non, donc je pense que tu sais mieux que moi.
Mais moi, j'ai mis l'Esprit Saint, moi. Comment ?
L'Esprit Saint, oui.
Mais de fait, quelques versets après, on ne dit plus l'ange du Seigneur, on dit l'Esprit Saint.
Exactement. Pour dire exactement la même chose. Donc, celui qui interpelle Philippe, soit est dénommé ange, soit est dénommé esprit, dans les versets 29 et 39, c'est ce qu'on retrouve en tout cas. On pourrait dire l'esprit du Seigneur, si ça peut,
ouais,
si ça peut
ça
t'aider.
Peut m'aider.
Oui, parce qu'en fait, c'est bien ça qui est dit dans la fin du passage. Mm-hmm. Voilà, l'esprit du Seigneur, c'est pas n'importe quel esprit, mais c'est bien l'esprit de celui qui a été envoyé par Jésus, hein. L'esprit, on pourrait presque dire l'esprit de Jésus, tout simplement.
Mais alors, n'importe quel ange,
Ah non, pas nécessairement. En tout cas, dans les actes, ça apparaît plusieurs fois. On va retrouver ce même phénomène dans d'autres chapitres, chapitre 10 par exemple, ou chapitre 23, où l'esprit, le mot esprit, peut être équivalent à ange, et ange égale esprit, etc.
Voilà. J'ai pris la peine de lire la note de acte 23:8.
Je sais pas si c'est la... Non, moi je ne l'ai pas lu.
Et je la trouve intéressante. Et donc, je lis quand même le verset. Ah oui, c'est... Les Sadducéens soutiennent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Mmh. Et là, noté sur le mot esprit. Ici, et au verset 2, esprit est un équivalent moins précis d'ange. Rejeté par les Sadducéens comme une innovation, l'angélologie juive, acceptée par les Pharisiens, atteignait son plein épanouissement dans la littérature apocalyptique et chez les Esséniens. Dans les actes, l'angélologie est sobre, très proche de celle des livres les plus anciens de la Bible. Dans le discours d'Étienne, c'est un ange qui apparaît à Moïse dans le buisson, comme en Exode, et qui lui parle sur le Sinaï. C'est, alors, j'avais souligné il y a bien longtemps, c'est une manière juive d'affirmer la réalité d'une intervention divine tout en respectant la transcendance de Dieu cachée. Mmh.
Tout à fait, donc on nomme pas Dieu, mais c'est tout comme en fait. Donc ici, on est face à l'esprit, celui de la Pentecôte évidemment, celui qui est envoyé par Jésus.
Et alors ça continue. Ailleurs, dans Actes 1:12, il est souvent question de l'ange du Seigneur ou de Dieu. Cette expression vient de l'Ancien Testament, quand on renvoie à Genèse et à Juges. Tantôt, elle semble un simple substitut de Dieu. Tantôt, elle semble désigner un être personnel, entre guillemets, aussi visible qu'un homme. Dans un cas, l'ange du Seigneur devient l'esprit. C'est notre texte.
C'est clair qu'on ne l'est autre.
Ouais, je partage ton opinion.
Parce que
tu vas nous expliquer.
Les anges sont des créatures de Dieu. Ouais. Dieu est esprit. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il envoie des anges pour camper autour de ceux de nous. Donc, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut comparer un ange à l'esprit? Oui, peut-être dans ce cas-ci, mais en règle générale.
Dans quelques cas, mais dans le livre des actes en particulier. Ailleurs, c'est déjà moins.
En acte.
Parce que Luc a fait un choix. Luc fait des choix.
Oui, mais je veux dire, des fois, le Saint-Esprit disait, et puis. Ok. Un ange du Seigneur. Moi, je n'ai pas l'ange du Seigneur.
Mais c'est un ange, oui. Ça, c'est un peu plus surprenant.
On parle d'ange.
Ouais, tiens, c'était un gardien. voilà.
Des mots qu'on ne dit pas ici.
Moi, je rejoins un petit peu ce que pensait, et je pense toujours la même chose que toi.
Ben oui.
Que quand on parle de l'ange de l'Éternel, il est question. On pense de Jésus. C'est pas dit clairement, c'est Jésus, mais on pense que dans certaines descriptions de l'ange de l'Éternel, il est question de Dieu. Et c'est surtout dans l'Ancien Testament qu'on le voit, parce que c'est Abraham qui a dit « Malheur à moi, j'ai vu l'Éternel
». Oui.
Notamment quand il avait vu l'ange de l'Éternel. Et je vois ici en Juges 6, l'ange de l'Éternel, donc l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi ». Bon, on peut encore douter qu'il parle de quelqu'un, penser qu'il parle de quelqu'un. Et un peu plus loin, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? On voit que l'ange prend subitement une position divine. Donc,
c'est très souvent le cas dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages, ils sont quand même assez nombreux, ou quand on parle de l'ange de l'Éternel, pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel, ce serait plutôt Dieu lui-même qui se manifeste et Ça, c'est moi qui parle. Puisque Christ est un médiateur qui est venu, c'est possible que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament soit Christ qui se soit manifesté avant d'être lui-même devenu homme. Mm-hmm. Hein? Moi, c'est ce que je pense. Et c'est basé sur, sur ce passage et d'autres, dont notamment... Alors, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Mm-hmm. » C'est tous des passages comme ça qui me font dire que quand on parle de l'ange de l'Éternel, on voit Jésus.
Mm-hmm. Mais... et pas Dieu lui-même, parce que voir Dieu et vivre...
Mais...
c'est impossible. Donc on ne peut voir que Jésus. Ou un autre ange, évidemment.
Mais l'ange, ça peut être un autre homme. Parce que, aussi bien en grec qu'en hébreu.
Oui, ça reste l'envoyé.
C'est l'envoyé.
C'est celui qui est missionné pour une mission. Voilà. Mm-hmm. Si tu veux. Donc c'est nous qui mettons derrière des mots comme le mot ange des significations. Souvent très alambiqués, mais qui, dans le grec ou dans l'hébreu, sont très terre-à-terre. Ah, oui. Celui qui est un ange est celui qui est envoyé pour une mission spécifique, à rendre pour Dieu, hein, de la part de Dieu et pour Dieu. Donc ici, pas de souci. Mm-hmm. Maintenant, on est quand même dans un texte où on voit bien qu'avec les versets 29 et 39, il n'y a pas d'équivoque possible. L'ange en question, c'est l'Esprit-Saint. Donc il est, et vous, c'est une petite remarque que je fais. Il y a sans doute un rapprochement à faire entre l'envoi de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, qui remplit une mission, hein, qui est d'ouvrir les yeux aux Juifs, et à ceux qui croient en Dieu, et le terme ange ici, qui est aussi l'envoyé, celui qui est envoyé pour, qui s'adresse avec une mission à donner à Philippe. Donc voilà. Mais ça montre à quel point, donc le petit débat qu'on vient d'avoir, ce n'est pas si évident de sonder les Écritures. Parce que dans telle circonstance, le mot ange voudra dire telle chose, et dans une autre circonstance, autre chose, avec toujours le même fil conducteur quand même. C'est qu'un ange a toujours un message à délivrer, ou un rôle à jouer auprès de quelqu'un. Donc c'est pas neutre, c'est pas juste pour faire peur aux gens, c'est pas un fantôme, quoi.
Oui, parce que quand on pense aux anges qui ont annoncé la naissance de Jésus, que les bergers ont vu et entendu, pour moi, c'est des différents anges. Un ange, c'est une créature de Dieu. Or, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont ensemble les créateurs. Mm-hmm. Donc, et c'est pour ça que moi, je suis un petit peu perdue là-dedans. Mais c'est vrai que les gens ont toujours des annonces ou des messages à faire passer. Mm-hmm. Ça, c'est sûr.
Voici encore un exemple dans Juges 2. C'est un envoyé de l'Éternel. Et j'ai une note qui, dans certaines Bibles, au lieu de un envoyé de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traitez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? Donc c'est un envoyé de l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel dans certaines traductions, et il parle de moi, vous ai fait.
Oui, mais il parle au nom de Dieu.
Oui, voilà.
On peut l'interpréter comme
ça. Ça peut être.
Comprendre.
Il peut y avoir les deux.
Il parle au nom de Dieu par la bouche de l'ange.
On s'attendrait à ce qu'ils disent un envoyé de l'Éternel parla de la part de l'Éternel. Tandis qu'ici, il attaque tout de suite en disant « Je vous ai fait monter hors d'Égypte ». C'est l'ange qui parle. « Je vous ai fait parler ».
Oui, mais comme c'est un ange à l'éternel, il parle
aussi. Selon l'inspiration qu'il a reçue de Dieu.
C'est interprétable. Oui. On peut penser les deux. Oui. Il y a ça, il y en a d'autres. Donc,
ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur à penser comme tu penses. Mm-hmm. Parce qu'il y a bien des cas dans l'Ancien Testament où ce que tu dis s'avère vrai. Ouais. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et il parle en son nom, ça c'est clair. Mm-hmm. Comme l'ange qui se bat avec Jacob. Mm-hmm. On découvre à la fin qui est cet ange finalement. Mm-hmm. Voilà. Ok, mais je pense que vous avez bien travaillé. On voit que c'est à la fois complexe et simple, et qu'en tout cas, c'est toujours quelqu'un qui est envoyé pour une mission spécifique. Et entre autres ici, c'est quoi cette mission ?
De courir après.
En tout cas, à dire à Philippe quelque chose.
Oui, déjà, il descend la route.
Pour rencontrer l'Eunuque.
Ok, mais au départ, verset 26, par exemple.
Il doit aller dans le sud,
aller vers Gaza.
Voilà. Un ordre de mission.
D'accord, il reçoit un ordre de mission. Alors, il y a une autre traduction possible selon les manuscrits qu'on veut bien prendre en compte. C'est, au lieu de « tu vas te rendre vers le midi », on peut aussi traduire « tu vas te rendre vers l'heure de midi ». Pas tout à fait la même chose, mais bon, on ne va pas se disputer là-dessus. Alors, est-ce que vous avez un petit peu sous-pesé cette mission ? Admettons que c'est à vous que s'adresse cette mission. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pourquoi il dit celui qui est désert, alors que justement il l'envoie parce qu'il y a quelqu'un ?
Alors, bon, ça c'est très bien. Bon. Mais ça veut dire.
Ça veut dire. Héritage.
Si tu reçois ce type de mission.
Mais à quoi bon ?
Est-ce que voilà, bon, t'as un peu envie de te dire pourquoi faire ?
Pourquoi faire une
mission. En tout cas, déplacer un ange pour dire une telle chose, c'est une mission assez imprécise, finalement. Ok, je dois me rendre au sud de Jérusalem, peut-être à l'heure de midi, on n'en sait rien, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza.
Oui, si c'est l'heure de midi, c'est compréhensible qu'elle soit déserte. Comme ça
mais aussi parce que c'est peut-être la route la moins fréquentée qui va vers Gaza. Il y avait plusieurs routes qui partaient de Jérusalem vers le sud, vers l'Égypte. Et celle-là est plutôt côtière, si vous voulez. Donc c'est la route la plus proche de la côte que cet eunuque a pris, pour des raisons, on ne sait pas lesquelles, peu importe. Et le texte, comme tu le dis, Anne-Catherine, précise bien que c'est une route déserte. Alors il est vrai qu'à certaines heures du jour, quand on est dans le sud de la Judée, et dans le désert près de Gaza, t'as pas tellement envie de t'y promener, quoi. Voilà. Ça dépend de la saison, ça dépend du climat, mais bon, en général, c'est quand même très très dur. Donc, si j'avais été Philippe, je n'y serais pas allé. Ou alors j'aurais demandé spontanément « Pourquoi faire, Seigneur, puisqu'il n'y a personne hein ?» Ok. Alors, bon... Toutefois, on observe quoi ?
Philippe s'en va.
Philippe obéit, lui. Claque, au doigt et à l'œil, il obéit sur le champ.
Au contraire de Jonas.
Ouais. Oui, et alors on peut se poser quand même des questions.
En grec, ça donne quoi l'idée ? Lève-toi. Et il se leva. C'est qu'il était assis, c'est qu'il était dans l'inactivité à ce moment-là, c'est qu'il était en repos.
Au verset 1, tu vas te rendre. En grec, c'est lève-toi et va.
Oui. C'est généralement ça. C'est active-toi si tu veux. Active-toi.
Oui, c'est ça.
Et active-toi dans tous les sens du terme, même se dépêcher, la promptitude, etc. Quoi.
Bon, il était dans une période un petit peu plus calme.
Sans doute qu'il était moins occupé. Il est toujours en Samarie, apparemment, puisqu'on ne nous dit pas qu'il est déjà parti. Il n'est peut-être pas. À moins qu'il soit retourné avec les deux disciples à Jérusalem, pourquoi pas.
On ne sait pas.
Mais en tout cas, il reçoit la mission, là où il se trouve, que ce soit en Samarie ou à Jérusalem, de partir au sud de Jérusalem. Alors, il faut savoir que la distance entre Jérusalem et Gaza à vol d'oiseau, c'est 80 km. Gaza n'étant pas la bande de Gaza, mais une ville, on y reviendra tout à l'heure, une ville assez importante pour l'époque. Alors.
Les chemins ne sont pas déserts pour l'instant.
Non.
Ça,
c'est sûr.
Alors, j'avais quand même une question par rapport à la réaction de Philippe à ce genre de mission assez bizarre. assez incomplète. C'est ce que nous, on est aussi prompts que lui à obéir aux missions que Dieu nous confie. C'est une excellente question. Quand on reçoit une vocation, un appel, est-ce que comme ça, clac, on se met en marche et puis on exécute le programme, même si on ne comprend pas tout? J'en doute un peu, en tout cas pour nous occidentaux. Parce qu'on est quand même là à pinailler sur la virgule.
Pourquoi, comment?
Ça me fait penser que probablement l'appel était très clair.
C'est ça,
et que
quand même.
Peut-être la relation entre Philippe et Dieu était tellement profonde que c'était comme si Dieu était devant lui et lui donnait l'ordre.
En tout cas, il est déjà bien engagé.
Ouais. Ben oui, c'est ça.
Il a déjà accompli plusieurs missions, que ce soit en Samarie ou à Jérusalem. Donc il est un peu habitué, je pense, à ce type de deal où l'Esprit Saint conduit les choses et puis l'Esprit Saint intervient et lui dit « Ah, il faut faire telle chose » et puis on le fait, quoi.
Rappelez-moi, Philippe, c'est un des diacres ?
Oui, c'est un des diacres. Mmh. Un de ceux qui est le plus connu, avec Étienne en tout cas.
Mais il y a des fois des missions qu'on ressent et qu'on est persuadé que c'est la bonne. Et on y va, enfin je veux dire, ça dépend de la situation.
Oui.
On a des exemples de gens qui sont partis comme ça, ou qui ont un projet, et puis qui sont convaincus que c'est le Seigneur. Et c'est vrai, d'autres, des fois, sont convaincus, et c'est pas tout à fait juste, mais... Donc ça, c'est difficile à dire.
Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ce que tu disais, Yves, je pense que c'est juste aussi... Si on reçoit un appel du Seigneur pour quelque chose de bien spécifique, on attend souvent beaucoup de confirmations.
En tout cas, on voit des choses qui sont des fois...
En tout cas, nous, les Occidentaux, je ne parlerai peut-être pas dans d'autres contrées comme l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique du Sud, mais nous, on est tellement devenus cartésiens qu'on a besoin d'explications, de preuves, de détails, et d'où l'idée de confirmation, par conséquent, hein, d'être certain de certains. À côté de ça, comme Lindy, il y a parfois des gens qui obéissent spontanément, tant ils sont convaincus par la mission. Ici, je dois avouer quand même, si je suis à la place de Philippe, j'ai du mal à être totalement convaincu du besoin de me rendre sur une route déserte en allant vers le sud, hein, en dehors de tout, quoi, en plein désert. Bon, ok. Alors, j'en reviens une deux minutes sur Gaza, non pas à cause de l'actualité, mais pour expliquer un peu que c'est une ville très importante... en direction de l'Égypte. Donc c'est sans doute une des villes, je vais essayer de m'expliquer correctement, Gaza fait partie des cinq capitales. Il y avait cinq capitales de la Philistie, si vous voulez. Les Philistins avaient cinq grandes villes. On appelait ça d'ailleurs la Pentapole, hein, peu importe. Et c'est l'une des villes les plus au sud, parmi les cinq. Alors, c'est donc aussi sur la voie caravanière, si vous voulez. C'est là que s'arrêtent des commerçants pour faire étape, parce qu'ils viennent de traverser le désert, soit en venant du sud, soit en venant du nord, et qu'ils ont besoin de se rafraîchir, de manger, et puis de faire boire leur chameau, leur bétail, etc. Donc on peut comprendre que l'ONU ait emprunté cette voie-là. D'autant que on verra tout à l'heure que s'il y a un char, c'est qu'il y a des animaux devant pour tirer le char, quoi. Donc Gaza, une des cinq capitales situées le plus au sud. La mention alors déserte se comprend un peu mieux si ça se rapporte à la route qu'il fallait prendre depuis Jérusalem pour se rendre à Gaza, puisque plusieurs routes y menaient, et celle-ci étant apparemment la moins fréquentée, le côté côtier, si vous voulez. Il fallait donc que Philippe prenne la route du sud, la moins fréquentée, pour pouvoir accomplir sa mission, dont apparemment il ne sait toujours pas laquelle exactement, à ce moment précis de notre récit, quoi. Voilà, des petites questions là-dessus ou pas? Alors, toujours, ça sera utile parce qu'on y reviendra quelques fois dans la soirée. J'ai quand même essayé de trouver une carte... où on pourrait s'imaginer l'ensemble de la péricope. Alors vous avez Jérusalem ici, Gaza qui se trouve là, le long de la côte, et lui effectivement descend vers l'Égypte. Il est évident que tu ne prenais pas la route de la mer, à moins de faire le trajet en bateau, ce qui était assez rare à l'époque. Donc on prenait au moins jusqu'au Nil, pour pouvoir après éventuellement prendre des bateaux sur le Nil pour descendre. Mm-hmm. On verra pourquoi j'ai imprimé aussi loin.
Et entre Jérusalem et Gaza, 80, c'est oui. ça mm-hmm. Oh, punaise, t'imagines.
Il y a moins de 100 km, mais quand même 100 km, un char tiré par un cheval ou un bœuf, il faut peut-être le temps de le faire quand même. Mm-hmm. Voilà. Alors, maintenant, on a la série des questions qui concernaient ce fameux eunuque éthiopien. Qui est-il ? Parce que c'est quand même très important, je pense, pour bien comprendre la portée du texte, de savoir qui est cet eunuque éthiopien. Alors, je pense que chacun a eu l'occasion de gratter un peu.
Mais c'est seulement maintenant que j'ai réalisé que Candace, ce n'était pas un prénom.
Merci. C'est déjà un bon point.
Alors, c'est comme on dit le pharaon ouais. en Égypte, c'est Candace, reine. Voilà, c'est un titre.
C'est un titre.
C'est pas un prénom.
Un titre ou une fonction, peu importe. Mais en tout cas, ça, il faut savoir que, on y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail, mais les reines Candace, donc celle qui avait la fonction d'être reine dans cette partie de la Nubie, pour être précis, hein, c'est pour ça que la carte est là, on y reviendra tout à l'heure, dirigeait finalement le royaume de Méroé. Méroé, c'est un royaume qui s'étend de Khartoum, si vous voyez la capitale du Soudan actuel, donc de Khartoum jusqu'à la première cataracte du Nil, qui est symbolisée ici, quelque part par un trait, je suppose que c'est, ouais, c'est ici, jusqu'à Assouan. Voilà, ça vous donne une idée. Donc, du sud, le Khartoum n'étant pas sur la carte, elle est encore un peu plus bas, de Khartoum à là, c'était ce royaume-là. Mm-hmm. Pendant toute une période, ça a été des rois masculins. Et puis ensuite, il y a eu des reines avec les mêmes pouvoirs. C'est pas comme les reines d'Égypte, elles n'avaient pas vraiment de pouvoir. C'est-à-dire que même quand il y a eu des reines toutes seules, c'était souvent parce qu'elles géraient le règne de leur enfant, vous voyez ce que je veux dire. Et elles en profitaient pour prendre le pouvoir. Mais sinon, dès qu'un roi était mature pour être roi en Égypte, il devenait pharaon, point final, et les reines s'effaçaient. Tandis que là, pendant très longtemps, il y a eu plusieurs Candaces qui ont dirigé le royaume de Méroé, et qui étaient assez sanguinaires. Hein, ce n'étaient pas des filles faciles. Hein. Donc elles n'avaient pas peur de la guerre, etc., et de tuer des gens, et de massacrer. Donc ça faisait partie de la manière d'être de l'époque. Hein. Voilà. Voilà donc déjà un petit détail. Alors, on a d'autres détails, je suppose. C'est pour nous rappeler...
c'est
le nuque,
déjà.
Ah, un eunuque, effectivement. C'est ça. Voilà.
Et tu as fait.
Alors.
Ah, vous fonctionnez.
Oui. Alors, en général, les eunuques pouvaient avoir plusieurs fonctions. Celle de travailler dans un harem, hein, vous voyez, d'administrer, de gérer les femmes des rois. Mais elles avaient aussi d'autres fonctions qui étaient plutôt publiques. D'administration, si vous voulez, on leur confiait des tâches. Mais on sait aussi que le terme eunuque pouvait désigner tout simplement des princes ou des hommes d'origine noble, un homme qui remplissait alors une fonction particulière à laquelle il se consacre entièrement comme un eunuque, si vous voulez. Donc dans la même idée. Hein. Voilà, donc on ne sait pas s'il était réellement eunuque dans sa chair, mais en tout cas il l'était... dans son fonctionnement, dans sa manière de travailler pour une des reines, Candace. Alors, le texte précise qu'il est éthiopien, mais à l'époque, l'Éthiopie n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. L'Éthiopie correspond à la Nubie ou à l'Abyssinie, si vous voulez, une région plutôt au nord de l'actuelle Éthiopie, dont j'ai délimité tout à l'heure l'extrême sud étant Khartoum, et l'extrême nord étant la première cataracte du Nil au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le barrage d'Assouan. Voilà. Mm-hmm. C'est un très grand territoire quand même, hein, qui était assez bien égyptianisé, si vous voulez, parce qu'ils avaient été pendant un temps envahis par les Égyptiens, dont ils avaient adopté beaucoup de choses. On y reviendra dans un moment. Alors on apprend aussi, comme tu l'as dit Anne-Marie, qu'il est haut fonctionnaire. Donc c'est pas juste un petit larbin de la cour, c'est un haut fonctionnaire. D'ailleurs le grec du Nastès ici nous laisse entendre qu'il est ministre, ou en tout cas officier supérieur, un type très très important à la cour de la reine Candace. Et c'est Pline d'ailleurs qui nous a appris que Candace n'était pas un prénom, mais une fonction, un titre, et notamment ici, royaume de Méroé. Alors, quelle est sa fonction? Eh bien, sa fonction, c'est l'administration du trésor de la reine, une sorte, si vous voulez, de ministre des Finances, donc un personnage plus qu'important. Il y a des personnages très importants à une cour royale ou dans une république, c'est ceux qui détiennent le portefeuille de l'intérieur, des affaires étrangères et du pognon. Donc avec ces trois postes, en principe, on arrive à diriger un pays. Mais c'est le même cas à l'époque, une fonction extrêmement importante. Et puis, on apprend quoi d'autre de lui ?
Il est venu pour adorer.
Voilà. Donc, alors, la plupart de nos versions comportent le mot pèlerinage qui n'est pas là en grec, hein, je le dis tout de suite, puisque le grec dit simplement « ayant adoré à Jérusalem », eh bien, il prend le chemin du retour. Voilà. Alors, on se dit « tiens, qu'est-ce qu'un Éthiopien d'origine païenne, hein, son origine profonde, adorant quasi les mêmes dieux qu'en Égypte, hein, les dieux, que fait-il à Jérusalem ?» Et donc le texte nous dévoile que oui, c'est un prosélyte. C'est déjà un gars converti au judaïsme. Il va pour les grandes fêtes, alors lesquelles en l'occurrence ici, la Pâque, puis la fête des tabernacles, c'est les deux fêtes auxquelles il vient d'assister, et maintenant il reprend le chemin du retour. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée que pas mal de prosélytes venaient à Jérusalem aux grandes fêtes. On l'avait déjà vu au chapitre 2. On le reverra dans d'autres passages, mais notamment dans Jean 12, qu'on a étudié aussi, on a vu que des prosélytes venaient à la Pâque, par exemple, à Jérusalem.
Alors, c'est comme ça qu'il dit Isaïe, d'ailleurs.
Oui, c'est la raison pour laquelle il dit Isaïe. Alors maintenant, on va essayer d'aller plus loin avec la carte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour l'époque, Méroé est tout à fait en bas. C'est donc le centre, hein. La ville de Méroé dans laquelle se trouve la cour royale, en bas de la carte. Du bas de la carte à Jérusalem, il y a au bas mot 1500 km. Au bas mot à vol d'oiseau. Donc, on ne sait pas s'il suivait le cours du Nil, on ne sait pas s'il prenait des routes à travers le désert de Nubie, pourquoi pas, pour couper court, peu importe. Mais en tout cas, une fois rendu au niveau de Memphis, il fallait vraisemblablement partir par la route, alors certainement côtière, pour rejoindre Jérusalem. Alors, on fait un petit calcul rapide, même en exagérant, hein, parce que c'est la grosse louche, à raison de 50 km par jour, il faut quand même un mois hein, pour monter, puis un mois pour descendre, et peut-être 2 à 3 semaines à Jérusalem. Donc, on imagine un gars qui est haut fonctionnaire, l'engagement que ça pouvait représenter de quitter la cour royale du royaume de Méroé pour partir plus ou moins 2 mois et demi, 2 mois, 3 mois, et puis et que Candace, qui était apparemment pas facile, hein, les reines Candace, l'autorise, parce que voilà, il part pas comme ça, tiens, bye bye, je reviens dans 3 mois. Donc nécessairement, il fallait quand même que sa foi, son attachement au Dieu d'Israël soit suffisamment crédible et important pour que la reine elle-même l'autorise, le laisse faire, le laisse rendre son culte à un Dieu qui leur est totalement étranger, qui n'est pas du tout le leur. Hein. Voilà. Donc moi je trouve ça quand même très important comme détail pour comprendre la suite de l'histoire. Voilà un homme qui parcourt une très très longue distance sur un char, hein, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, le char peut-être depuis l'Égypte, peut-être pas depuis Méroé, s'il est descendu en félouc le long du Nil, admettons. Mais quand même, une très longue distance, un très long voyage, un voyage périlleux, Car il faut savoir qu'à l'époque, sur le Nil, elles sont d'ailleurs signalées par des barres sur le Nil, il y a plusieurs cataractes à passer. Alors, ce n'est pas des chutes d'eau, les cataractes du Nil, c'est plutôt des endroits resserrés, rocheux, dangereux, avec un courant assez rapide qu'il fallait quand même passer sans se noyer, sans se pas casser sur un rocher. Okay. Et puis, il y a les autres dangers, les dangers du climat, le désert à traverser à plusieurs endroits. Vous voyez les mots désert sur la carte, y compris quand on arrivait du côté de Gaza, c'était quand même l'enfer comme truc. Et l'épreuve aussi d'un éventuel banditisme. Hein. Bon, le gars, c'est un riche, il se trimballe avec... évidemment, il n'est pas tout seul, il n'est pas tout seul sur son char. On imagine bien qu'il y a une caravane avec lui de serviteurs, mais de gardes aussi, puisque c'est un ministre. Voilà. Donc, il est accompagné, mais c'est quand même une démarche assez incroyable.
Ben, c'est difficile de le comprendre, parce que un eunuque, ou même eunuque dans sa fonction, c'était des gens complètement soumis. Pas des esclaves, mais complètement soumis.
Sauf s'il est d'origine noble. Ouais. Ce qui est fort probable ici.
Mais n'empêche que pour se passer de lui pendant autant de temps.
Et peut-être fonction. Comme ça tous les ans.
Sans mail, sans GSM.
Oui, enfin, je veux dire, s'il va à chaque Pâques à Jérusalem, ça fait quand même pas mal, quoi. On peut imaginer plein de choses.
Question. Les Juifs qui reviennent d'Éthiopie, pour celle d'Éthiopie qui reviennent, hein,
oui.
On ne peut pas imaginer qu'à l'époque, il y avait déjà des Juifs là-bas, des vrais pratiquants juifs à l'époque.
Oui,
on pourrait dire, ben,
à cette époque-là.
Ben oui.
On va y venir dans un moment.
Hein, c'est écrit.
C'est écrit.
Bah, non.
Non, mais tu vois, il y a une peuplade juive là-bas. Hein.
Oui.
Oui.
Carrément.
Il y en a plus. Oui, bon, il y en a plus beaucoup. Hein. Ils sont presque tous partis là.
Ah oui, ils sont tous maintenant en Israël. Oui, oui, ils ont tous demandé à rentrer.
Mais on va y venir à ta question.
Déjà vu nous avons déjà vu une émission où en Éthiopie, il y a des églises chrétiennes très très anciennes qui remontent à vraiment très loin. Ils sont tous habillés en blanc. Il y a une croix sur leur bâtiment. Ils ont un culte d'adoration un peu spécial, mais ils sont décrits comme étant un groupement religieux chrétien qui remonte au temps de Jésus-Christ.
Donc il y a eu une évangélisation vers le sud. Alors, oui, certains vont dans les commentaires dire un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, on pense qu'il y a eu très vite une évangélisation du sud le long du Nil. Et qui est remonté sur là, parce que l'Éthiopie, c'est pas juste à côté non plus. Hein. C'est quand même plus bas là-bas, quoi. Hein. Mm-hmm. Et plus à l'est encore. Mm-hmm. Mais c'est pas étonnant, parce que c'est quand même toute une série de pays, l'Éthiopie, etc. Et ce qui est en dessous, ce sont des grands ports maritimes, la route de toutes les épices qui passent par là, etc. Donc c'est très commerçant, c'est très fréquenté. Et on peut comprendre que le christianisme est pris un essor considérable. Alors, pour peu qu'un gars comme... on ne sait pas son prénom, mais appelons-le Abou, si vous voulez. Pour peu qu'Abou...
Ait fait la publicité
de sa foi messianique.
Ouais, c'est parti.
On peut imaginer, effectivement. Si c'est en plus un noble, si un noble croit en cela, ben, pourquoi pas nous, hein. Voilà. Donc oui, tout est possible.
C'est impressionnant aussi de voir dans l'Ancien Testament que... l'histoire de la libération d'Israël, d'Égypte, ça a parcouru une bonne partie du monde. Parce que quand on voit les guerres incessantes, il y a à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas, des peuples qui se réfèrent à cette libération. Ah, le Dieu d'Israël a libéré Israël. Et ça a dû courir le monde antique. L'Éternel avait déjà sa publicité, en fait. Donc, c'est incroyable. À notre époque, on dirait subitement, on nous enlève les mails, le GSM, l'Internet, ceci et cela. Ben, il nous faudrait les journaux. Ouais. Il nous faudrait peut-être très longtemps pour apprendre des nouvelles.
Oui.
Et on ne peut pas concevoir que, malgré tout, à cette époque, les nouvelles se se distribuait de région en région parce que.
C'est à cause des caravanes.
Il faut savoir qu'Israël, c'est un couloir, enfin le territoire d'Israël, les deux royaumes d'Israël d'ailleurs, c'était le couloir caravanier. Donc tout ce pays était tout le temps du temps d'Israël parcouru par des étrangers qui montaient ou descendaient. Voilà, hein, montaient vers le nord jusqu'en Assyrie, Turquie, etc. ou vers le sud, en passant par les Nabatéens, puis en descendant encore plus loin vers les ports de l'Afrique de l'Est. Oui. Donc on peut comprendre, oui, tout le croissant fertile, finalement, était facilement évangélisable, puisque c'était parcouru et parcouru sans problème. Ça, plus l'Empire romain, il faut dire que c'était plutôt positif, quoi. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire concernant cet Éthiopien ? Alors oui, la question, je vous l'avais posée, mais comment cet Éthiopien a-t-il pu entendre parler du Dieu d'Israël ? Non seulement entendre, mais croire. Devenir croyant au Dieu d'Israël, c'est-à-dire devenir prosélyte, c'est-à-dire se faire circoncire, s'il ne l'était pas déjà, parce que dans certaines peuplades, on l'est déjà. En tout cas, circoncire et pratiquer la religion en question, c'est-à-dire se rendre aussi aux grandes fêtes, aux trois grandes fêtes hein, qu'il y avait à Jérusalem. C'est une excellente question, parce que ça va nous aider à comprendre le reste du texte, en fait.
Parce qu'on peut imaginer que c'est la suite de la visite de la reine de Saba à Salomon, quand elle est redescendue, que...
Alors,
si... Dieu.
Effectivement, on pourrait imaginer cela. On peut aussi imaginer que, vu ses fonctions, si ce gars est vraiment ministre des Finances à la cour royale de Meroé pour la reine qui était en fonction à cette époque-là, il avait vraisemblablement des liens avec d'autres cours du Proche-Orient et du Moyen-Orient, l'Égypte, Jérusalem, pourquoi pas, etc. Mais ce n'est pas encore tout à fait la bonne expression. Il y en a une plus simple, qui n'est pas dans le texte, évidemment, donc on ne peut pas le deviner.
C'est trop simple.
Donc, oui, alors, la reine de Saba, on peut s'y attacher, pourquoi pas.
Et Saba, c'est où?
Donc, c'est aussi dans le sud.
Dans le sud.
Ouais. C'est plutôt, on va dire, c'est plutôt à la frontière sud de l'Éthiopie. Aussi du côté Soudan. Plus bas que Khartoum. Ok, peu importe. Maintenant, la reine de Saba, elle a fait sa petite visite à Jérusalem du temps du beau roi Salomon. Qu'est-ce qu'elle en a déduit? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle pratiquait après elle? Est-ce que des gens... On n'en sait rien. Mais je dis, c'est pour ça qu'il y a une version beaucoup plus simple, qui est historique, et qu'il faut connaître pour comprendre le texte. Il y avait... sur le Nil, au niveau d'Assouan, de la première cataracte, c'est-à-dire à la frontière nord de la Nubie, il y avait sur l'île d'Éléphantine une colonie juive, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres du cœur du royaume de Meroé, et à un kilomètre de la frontière, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une grande colonie juive sur l'île d'Éléphantine, du temps... de la domination des Perses sur l'Égypte, c'est-à-dire, alors si je ne me trompe pas, je vais quand même regarder mes notes. Ben je ne me rappelle pas, tiens, tant pis. Je croyais que je l'avais noté. Bon, en tout cas, du temps de la domination des Perses sur l'Égypte, une colonie juive s'est installée. Il y a construit une synagogue. Donc c'était quand même pas rien, en l'honneur de Yahweh. On y a retrouvé des papyrus datant de 500 ans avant notre ère, donc ça faisait déjà tâche à l'époque, si vous voulez. Et en outre, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui lui a viré les Perses, des érudits ont entrepris la traduction des écritures en grec, sur cette île d'Éléphantine, à quelques centaines de kilomètres, 300-400 kilomètres du cœur du royaume. Et du coup, une des choses les plus simples à comprendre, c'est que si des Juifs vivaient au nord et à la frontière du royaume, il n'est pas impossible qu'en remontant le Nil, cet homme se soit intéressé à ces étrangers qui n'étaient ni grecs, ni perses, ni égyptiens, qui ne sont quand même pas leurs amis nécessairement. Voilà. Une chose assez simple qui peut nous dire les raisons pour lesquelles lui pratiquait. Et il pratique peut-être depuis un moment, parce que quand cette histoire survient avec Philippe, c'est pas un gars qui est tout jeune converti, il a déjà des habitudes, il monte à Jérusalem, au pèlerinage, aux grandes fêtes, etc. Il est convaincu, il lit l'écriture. Non, on voit aussi le côté érudit du bonhomme, quoi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, sinon qu'il retourne chez lui, donc il est plutôt sur le chemin du retour.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Yves, sur le fait qu'il y a déjà des Israélites, des Juifs, loin.
Il y en avait à Alexandrie aussi, ouais, vous vous souvenez de ça. Ouais. Il y a une, la plus grande bibliothèque juive du monde se trouvait à Alexandrie, c'est-à-dire ici, au nord de l'Égypte. C'est la raison sans doute pour laquelle il y avait une colonie qui est descendue plus bas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est suite aux déportations, suite aux guerres, suite au commerce? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, j'ai pas étudié la question de la colonie juive d'Éléphantine, mais on sait que c'est très souvent pour ces raisons-là que des juifs ont voulu sauver les Écritures. Et donc se retirer loin des pogroms, entre guillemets, pour sauver les Écritures saintes, qui pour eux sont primordiales. Et notamment la bibliothèque Alexandrie, c'est une des raisons aussi. Voilà. Donc oui, peu importe, mais ce serait intéressant de creuser la question du pourquoi Éléphantine exactement. C'est assez loin de tout, hein, faut bien le dire. Et Éléphantine, la première cataracte, à l'époque, il n'y avait pas le barrage d'Assouan, évidemment, la première cataracte du Nil était une sorte de frontière naturelle. Donc voilà la raison pour laquelle l'Égypte s'arrêtait là, à l'époque, au niveau de cette première cataracte. Et après, on entrait dans le fameux royaume en question, quoi. Donc il retourne chez lui, et au moment où le récit a lieu, il est au sud de Jérusalem, sans doute pas très très loin non plus, en direction de la ville de Gaza. Au tout début donc de son voyage de retour, après avoir vécu avec, ferveur les grandes fêtes à Jérusalem, et profité sans doute de ce bon temps auprès du Seigneur, auprès du Temple, etc. Et le dernier détail qu'on nous raconte alors sur lui, c'est qu'il est en train de lire le prophète Ésaïe. Ça, c'est dans les versets 29 à 30. Donc la ferveur se poursuit, si vous voulez, sa ferveur spirituelle. C'est un homme pieux, qui a une foi apparemment bien ancrée. Et comme à l'habitude chez les anciens à l'époque, et les juifs, en tout cas c'est le Talmud qui nous le dit, la lecture des Écritures se fait à voix haute. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi au verset plus loin, Philippe l'entend prononcer des mots qui ont trait au prophète Ésaïe. Donc on a l'habitude de lire à voix haute, qui était une manière d'une aide à la mémorisation. Si vous lisez un texte à haute voix, vous retiendrez plus de choses que si vous le lisez simplement avec votre tête silencieusement. Et Luc, donc, au verset 30, mentionne que Philippe entendit, et entendant, il identifie tout de suite le passage qui est lu. C'est pour vous dire que chez les Juifs, on n'avait pas besoin d'une Bible chapitrée pour savoir de quoi on parle. Donc il sait de quelle partie d'Ésaïe, de quelle partie du prophète, cet eunuque, ce noble, est en train de lire. Et il est clair alors, c'est une chose que moi je n'avais jamais perçue, tout en connaissant bien le texte, c'est qu'il lit dans la version des Septante. Il lit en grec, ce qui nous permet de nouveau de faire un lien avec l'île d'Éléphantine et la colonie juive, qui, eux, ont traduit, justement, les Écritures saintes de l'hébreu en grec, justement parce que le grec était la langue vernaculaire parlée. Hein, on ne parlait pas la langue de Rome, on parlait le grec pour pouvoir commercer, administrer, gérer, etc., ou faire la guerre, pour que tout le monde comprenne les ordres. C'était souvent comme ça que ça se passait. Donc, il lit le texte, et non pas le texte hébraïque, Or, nous avons découvert quelques versets auparavant que Philippe faisait partie du groupe des hellénistes à Jérusalem, c'est-à-dire d'origine juive par ses parents, ou juif, d'origine grecque par ses parents, mais juif, ou tout simplement lui-même d'origine grecque, mais juif, peu importe, et qu'il gérait le groupe des hellénistes. Il faisait partie des sept qui avaient été nommés pour gérer le problème des hellénistes à Jérusalem. Donc, c'est un gars, Philippe, qui entend aussi bien le grec que l'hébreu. Et il entend, en se rapprochant du char, parce que voilà, on a un verset 29 avec enfin la finale de la mission qui est annoncée, avance et rejoint ce char. Il ne sait pas encore pourquoi faire, mais en tout cas, on a un petit bout de plus. Et du coup, ben de nouveau, on voit qu'en clarifiant cette mission, Philippe reçoit en fait l'ordre tout simplement de se rapprocher de cette caravane qu'il voit devant lui et de s'approcher du seul char apparemment qui s'y trouve, facilement identifiable, un char pour une personnalité et peut-être des chevaux et des chameaux pour les autres. Et il court, dit le texte. Vous voyez à quel point, chaque fois qu'il reçoit l'injonction d'une mission, Philippe y met toute son énergie, et le texte nous dit donc qu'il court, sans doute pour rattraper ce char, qui va un peu plus vite que la marche d'un homme, si vous voulez. Et il entend l'eunuque lire le texte d'Ésaïe. Et c'est sans doute à ce moment précis que Philippe comprend sa mission. Il sait maintenant pourquoi il est là. Sur cette route si peu fréquentée, il est face à un étranger, un noble, un homme cultivé, qui parle et lit couramment le grec. Et puisqu'il lit le prophète Ésaïe, il devine d'emblée que c'est un prosélyte. Quel serait l'étranger qui s'amuserait à lire Ésaïe en grec s'il n'est pas concerné par le judaïsme, vous voyez? Donc oui, c'est pas mort sur le Nil. Hein, voilà, il lit pas de l'Agatha Christie pour passer le temps. Non, il lit le texte parce qu'il est un prosélyte, c'est-à-dire un païen converti au judaïsme. Et puis peut-être son accent du sud et la couleur de sa peau lui indiquent qu'il est d'un sud assez lointain. Et tout ça, sans doute, réjouit d'une certaine manière le cœur de Philippe. Le fait de comprendre sa mission, de comprendre pourquoi il est là, et nous découvrirons d'ailleurs la fois prochaine, que le texte qui est lu par l'Éthiopien en question fait tout de suite mouche chez Philippe, parce qu'il voit comment il va parvenir à annoncer le Christ à cet homme. D'où la question. Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis? Alors, je vous avais posé une question un peu impertinente. Finalement, est-ce que c'est une question osée, impertinente? Est-ce que Philippe prend cet homme pour un ignorant, etc.? Pas du tout. Il y a d'ailleurs en grec un petit jeu de mots entre les verbes « comprendre » et « lire » qui ont les mêmes racines, puisque pour... comprendre, c'est ginoskeis, et lire, c'est anaginoskeis, voilà. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il y a un petit jeu de mots là. Bien sûr que non, puisqu'il l'entend lire en grec. Il est capable de comprendre une partie du texte, ce qui lui est accessible. Bien sûr qu'il ne se moque pas de cet homme, et on verra d'ailleurs la prochaine fois que cet homme le reçoit plutôt favorablement, donc il ne se sent pas offusqué par la question. Donc la question que Philippe pose concerne plutôt le sens. Est-ce que tu comprends le sens profond qui se cache derrière le texte que tu es en train de lire dans Ésaïe? Le sens réel, si vous voulez, le sens complet de ce passage. Et ça, c'est les versets de la citation qu'on a plus loin dans le texte, à partir du verset 32 et suivant. C'est-à-dire que derrière cette citation d'Ésaïe se cache un côté inconnu, obscur pour l'eunuque. Il ne sait pas qui est Jésus. Il ne sait pas même qui est le Messie. Et il posera d'ailleurs dans la section qui suivra la question lui-même, de qui parle-t-on dans ce texte ? Donc on voit bien qu'il y a une part de connu et d'inconnu. Et il aimerait, lui qui est fervent, croyant, il aimerait vraiment maîtriser, comprendre le texte en question. Et c'est la raison pour laquelle Philippe appliquera le texte à la personne de Jésus lui-même. Il va lui présenter le Messie d'Israël. Alors, c'est vrai que si l'on se met dans la peau maintenant du haut fonctionnaire, là, on a beaucoup parlé de Philippe, de ses responsabilités, de son rôle. Maintenant, si moi, je me mets dans la peau de ce haut fonctionnaire éthiopien, lorsqu'il rencontre un type qui lui court après en plein désert, qui a une tête de juif, il est surpris de voir qu'il entend le grec.
Mais Philippe, c'est un prénom grec.
Oui, d'accord, mais lui, il ne sait pas qu'il s'appelle Philippe. Donc, au moment où Philippe l'interpelle en grec...
Il a peut-être une tête grecque, je ne sais pas.
Oui, mais la question, il la pose en grec.
Oui, il la pose en grec. Comment peux-tu comprendre? Ben oui, c'est en grec qu'il lui pose la question. Il ne lui parle pas en hébreu, ni dans la langue de son territoire éloigné. Donc, le haut fonctionnaire se sent tout de suite compris dans sa recherche, dans son questionnement par rapport au texte. Donc si je me mets dans sa peau, je me dirais, punaise, c'est une sacrée aubaine. Je suis tombé sur un juif qui parle grec, qui comprend ce que je suis en train de faire. Et en plein désert, là où il n'y a absolument personne, le seul type que je rencontre
c'est
comprend tout. Voilà.
C'est un ange qui l'a envoyé.
Exactement. Et donc on comprend mieux pourquoi... le haut fonctionnaire par la suite va aller jusqu'au bout parce qu'il profite de l'occasion, l'occasion favorable qui lui est donnée. Voilà, je pense qu'on a pas mal travaillé, je pense qu'on a encore le temps pour un moment de partage ou d'application.
Il est humble aussi, hein, cet eunuque, parce qu'il reconnaît qu'il a besoin d'aide pour comprendre, et il accepte que Philippe monte avec lui, s'assied à côté de lui. Je trouve que c'est beau, et il y a vraiment quelque chose qui se fait pour moi entre eux deux, et Philippe, il doit être fou de joie de pouvoir partager l'évangile, en fait, avec cet homme.
C'est clair qu'à partir du moment où il percute la mission, où il comprend pourquoi Dieu l'a envoyé là, ça doit être pour lui formidable, quoi. Ça doit créer une dynamique folle.
Et quand tu dis percuter, ça doit être d'autant plus percutant que, nous, évidemment, on est spoilés à la base. On dit qu'il est venu adorer à jamais Philippe, quoi, jusqu'au moment où il entend lire ce qu'il lit, il ne le sait pas.
Donc c'est vraiment au moment de la rencontre que tous les deux comprennent ce qu'ils font là. L'un a besoin d'être éclairé et l'autre peut l'éclairer. Mais tout ça, c'est Dieu qui l'a provoqué. Donc c'est assez fou quand tu y penses, quoi, que comment Dieu peut maîtriser l'histoire.
Et l'assurance de Philippe aussi. Hein. C'est évidemment pour la semaine prochaine, mais l'assurance de Philippe de partir d'Ésaïe et d'arriver à Jésus. Il sait ce qu'il doit dire. Il ne se perd pas dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il arrive directement. Et c'est aussi l'impression que Philippe sait de quoi il parle. Donc j'ai l'impression qu'à cette époque, les mémoires étaient bien plus vives que maintenant.
En plus, chez les Juifs, c'est clair, et c'est là encore le cas aujourd'hui. Moi, j'écoute de temps en temps des rabbins qui peuvent parler pendant 2 heures en citant les textes. C'est inouï, quelque part. C'est assez fou de voir la connaissance.
Nous aussi, on baigne dans la parole de Dieu, mais on a l'impression qu'eux, ils sont complètement mouillés de la parole de Dieu, complètement. C'est fou.
Oui. Alors bien sûr, dans le monde juif, dans le judaïsme, tu lis quand même toute l'écriture chaque année, depuis que tu as Depuis que t'es gosse, tu l'entends, oui. Mais depuis l'âge de 12-13 ans, tu le lis. Oui. Tu participes.
Oui. Donc, tu t'imagines. Je vais raconter que au Burundi et au Kenya, les églises ont l'habitude d'avoir un programme annuel et toute la parole de Dieu est vue. Que ce soit à l'école du dimanche, au culte ou n'importe quelle réunion, étude publique. Il y a un programme. Tous les responsables se mettent ensemble et décident du programme annuel et toute la parole est vue. Il est étonné de voir que nous, c'est parfois du plic-ploc dans le sens que suivant l'orateur qui vient, ben, chacun a son thème un petit peu favori. On discute, on a une prédication sur un mot ou une prédication sur une idée. Mais là, chez eux, c'est la parole de Dieu depuis le début jusqu'à la fin.
Et on recommence. Au fond, je me rends compte que nous avons beaucoup perdu en Occident. Non seulement à cause de la technologie, déjà. On fait confiance. On fait confiance aux commentaires, on fait confiance au chapitrage de la Bible, on fait voilà, etc. Mais le résultat des cours, c'est qu'au niveau mémoire, on n'a aucune vue d'ensemble. On ne connaît pas. Alors que tu vois, en Afrique ou ailleurs, il y a des gens qui, tout en étant ignorants de beaucoup de choses et ne comprennent pas tout de la Bible, ont en tout cas une vision d'ensemble de ce qu'est la Bible, de ce qu'elle raconte. Alors que nous, on a parfois bien du mal. Quoi. Or, pour moi, ça me paraît quand même fondamental. Alors, je ne dis pas qu'il faut retourner à des pratiques qui seraient de l'ordre du par cœur, etc. Mais en même temps, quand les Juifs étudient la Torah, ils n'arrêtent pas de se poser des questions. Alors que nous, on n'arrête pas de recevoir des réponses. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, tu dois savoir, tu dois connaître, il faut apprendre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez les Juifs. C'est du tac au tac, on pose des questions, on répond dément. On critique ta réponse, enfin, on te repose une autre question pour te boucher le bec. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, la mémoire est totalement stimulée tout le temps à la recherche de la vérité, de ce que le texte dit, de ce qu'il raconte. Pour moi, c'est très, très important. Ok, donc, je garderai encore la carte pour la fois prochaine, parce que ça vaut la peine quand même de bien visualiser cette espèce d'histoire. Et de voir en quoi la finale de notre texte, que nous étudierons la semaine prochaine, est merveilleuse, elle est formidable. Parce que ça veut quand même dire qu'un type aussi haut placé dans un royaume aussi éloigné, ça va faire tâche. S'il était déjà croyant depuis des années, et pratiquant, obligeant la cour à se passer de lui pendant 2 à 3 mois, peut-être pas tous les ans, mais si c'est un bon pratiquant, oui, il va essayer. Donc on peut se dire, si après ce gars met ça à la disposition du messianisme, il n'y a même plus besoin d'aller à Jérusalem. Tout peut se passer là, au centre du royaume de Héroïne. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas qu'en Éthiopie qu'il y a eu des Juifs. Il y en a aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a des tribus qui se réclament du judaïsme, qui pratiquent un judaïsme particulier.
De l'Ouest,
oui. Il y a toute une tribu qui pratique une sorte de judaïsme. Donc on a les sociologues qui étudient la question, et des juifs aussi d'ailleurs, essayent de comprendre comment ça a été possible. Mais sans doute au fil des migrations, le judaïsme parti de la vallée du Nil s'est répandu un peu partout quand même sur le continent africain. Et très souvent, les migrations sont liées à la sécheresse, à la guerre. Oui. On fuit, et puis on s'installe ailleurs, et puis on continue à essaimer. Moi, je trouve ça assez étonnant.
Quoi, et c'est un judaïsme pur.
Ben, non, c'est un peu comme chez les Falachas d'Éthiopie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des variantes, parce que voilà, ils sont plus attachés à Jérusalem depuis très longtemps, qu'ils ont été autonomes. Mais les grandes pratiques sont là. Donc, ils ne connaissent peut-être pas tout de l'écriture, mais ils connaissent suffisamment ce qu'est le judaïsme pour l'observer. Shabbat et tout ça, ça en fait partie. Quoi.
Cette semaine, à la RTB 3, c'était le mardi, il y a une émission en 2 épisodes sur l'histoire d'Israël. Et on a vu à un moment donné les Kabyles, des Juifs d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, etc., qui à un moment donné, on les a chassés, oui. Ils sont partis en Israël. Donc il y avait des juifs partout.
Un peu partout dans l'Empire romain, ça c'est clair.
Même en Chine, hein.
Oui, oui, il y a une tribu qui se trimballe en Inde et en Chine, il y a eu des juifs de couleur locale.
De couleur locale.
Oui, parce que tu n'es pas juif par le sang, tu es juif par l'adhésion au judaïsme. Tu le deviens par la circoncision, etc., etc. Puis par les femmes, par la suite, qui elles-mêmes se sont converties. Au départ, tu as une série de gens qui faisaient partie des mêmes clans, de la même tribu, mais après... T'as plein d'étrangers qui se sont greffés là-dessus, qui eux-mêmes sont devenus juifs. Et d'ailleurs, même dans le rabbinisme le plus pur, on conçoit qu'un païen se convertisse au judaïsme et devienne juif par conséquent. Oui. C'est plus facile de naître juif.
Oui.
Parce que là, tu n'as pas à essayer de prouver que tu veux l'être. Oui. Voilà. Après, c'est peut-être pas un cadeau de naître juif à certaines époques de la vie, comme on le sait maintenant. Ok. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a pensé à une application pour cette partie ou pas. Il y a celle que je vous avais confiée tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est si évident d'obéir aux demandes de Dieu dans nos vies? Moi, je dis que parfois oui, parfois non. Parfois, on ne comprend rien du tout. Parfois, on ne veut pas, hein, comme Jonas. Et parfois, c'est tellement clair qu'on y adhère totalement nous-mêmes. Mais ce n'est pas si simple.